grande cellule au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Sortez de la bande de rats. C'est un cas pour l'armée si vous arrêtez pas. Tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Alors, autour de la table, il y a Greg.
Salut.
Il y a Alex.
Salut à tous.
Il y a Arthur.
Salut.
Et nous avons au bocal, pas Serge parce qu'il nous a planté. Non, il nous a pas planté, il est en vacances. Ah non, il est pas en vacances, il est pas là. Et Arthur au bocal.
Salut tout le monde.
Et Sylvia qui vous... Salut, on va passer sur le fil de conductif de l'émission et c'est Alex qui va s'en charger.
Ouais, du coup cette semaine on a reçu pas mal de lettres et du coup on va commencer par d'abord donner des nouvelles de Kamel Daoudi qui est quelqu'un dont on avait déjà longuement parlé, qui est une des personnes qui a fait le plus d'assignation à résidence. Et pendant presque 12 ans avant de retourner en prison, on va y revenir dans sa lettre. On va donner des nouvelles de quelqu'un qu'on a publié dans le numéro 52. On va revenir, on va revenir un peu sur les QI, la manière dont l'État continue de catégoriser les gens comme terroristes, de leur faire payer des trucs très 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 longtemps après, sans leur laisser la possibilité en fait d'avoir aucune porte de sortie quoi. On va continuer avec en donnant des nouvelles d'une proche d'un prisonnier. On va parler de l'infâme. Du coup pendant toute l'émission, on va revenir avec des lettres, soit de proches, soit de prisonniers directement. On va passer un petit une lettre qui est lue par l'émission de Casse-Muraille et on leur fait un gros big up pour le travail là-bas. On redonnera les horaires et les et comment les écouter. Et à la fin de l'émission, on aura l'appel peut-être d'un copain pour donner des nouvelles à la fois de la MAF des Baumettes et du CRA de Marseille pour revenir un peu dessus, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses ces derniers temps, qu'au niveau de la MAF, ça a bougé, qu'il y a des prisonnières qui essayent de faire sortir un peu des infos, et que donc il faut continuer à relayer comme on le raconte souvent, quoi. Et pour finir...
Et on va parler de lits en cours aussi.
Ouais, et on va parler des blocages des matons, de comment les prisonniers de là-bas se bougent aussi. Mmh. On va revenir aussi un peu sur les blocages qui ont eu lieu ces derniers temps et dont s'était fait l'écho, et qu'est-ce que ça veut dire un blocage en prison. Parce que c'est pas juste des matons qui sont avec trois pneus devant la prison, quoi. Enfin, ça implique pas mal.
Ce que veut dire le blocage des matons et ce que veut dire les blocages de prisonniers à l'intérieur, parce que c'est ce qui se passe à Liancourt, en fait.
Et juste pour dire, pour finir, pour nous contacter en direct pendant l'émission, c'est au 01 40 05 06 10. Pour nous appeler tout le reste du temps, c'est le 07 52 40 22 48. Je répète, 07 52 40 22 48. Aussi pour dire que là, c'est la dernière émission en direct de décembre, et qu'après, pendant deux émissions, la radio sera fermée et que du coup, ce sera désenregistré. On va essayer de ne pas rediffuser et de donner des nouvelles, mais que voilà, en tout cas, c'est le dernier direct avant janvier. Pour nous écrire, c'est toujours au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-FPP. Et on est toujours présent sur différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous ces trucs-là. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si jamais... voilà. Et donc, on va commencer par lire une lettre. C'est celle de Kamel Daoudi. Donc, c'est ce que je disais. C'est quelqu'un qui a été condamné donc, pour des faits que l'État a catégorisés comme terroristes, et qui, du coup, a pris un acharnement hyper vénère de la part de l'État. Ça a d'abord été 9 ans de prison, puis 6 ans de prison en appel. À sa libération, ils ont tenté de l'expulser vers l'Algérie. On s'était souvent fait le relais ici de comment l'État expulse, enfin essaye d'expulser notamment les gens qui sont fichés S, notamment les gens qui sont catégorisés S, qui sont catégorisés comme terroristes, pardon. Et en fait, la particularité, c'est que donc il a eu un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui disait qu'effectivement, s'il était expulsé en Algérie, il risquait des tortures, parce que c'est ce qui attend beaucoup de gens quand ils sont condamnés pour terrorisme, si on les renvoie, si on les expulse en Algérie. Et donc, il n'était plus expulsable. Face à ça, l'État français, au lieu de le laisser tranquille, ils ont décidé de l'assigner à résidence avec une assignation qui, je crois, est renouvelable tous les 6 mois. Et ça, c'est depuis 2008. Et donc, en fait, depuis 2008 jusqu'à, je crois, avril de cette année, ou enfin là, il y a quelques mois, cette personne, elle a été assignée à résidence. On est devant pointer jusqu'à 3 fois par jour dans des communicaux. Il y a eu différents arrêts pour essayer de limiter. Enfin, il a tenté tout un tas de recours juridiques. Il a été souvent éloigné de ses proches en étant obligé de pointer des fois dans des petits bleds avec le comico autour. Et pour 20 minutes de retard, ils se sont permis de le réenfermer, de lui redonner un an de prison. Et donc c'est quelqu'un qui est en vrai enfermé depuis 2005 au moins, depuis avant 2005, depuis le début des années 2000, et qui est vraiment jamais sorti en fait, et que l'État pourchasse, quoi.
Et il devait signer combien de fois ?
Alors, je ne sais plus combien de fois c'était à la fin, mais il a été jusqu'à 3 fois par jour.
3 fois par jour.
Si je ne dis pas de conneries.
C'est énorme. Alors, j'entends plein de gens qui diront, mais il ne faut pas qu'ils se plaignent, il était dehors. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai dû signer... Ouais, musique maestro. J'ai dû signer en contrôle judiciaire pendant 2 ans, une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est pas énorme, une fois par semaine. Juste le fait d'aller au commissariat et d'aller de prendre le risque toutes les semaines d'y aller une fois, parce qu'en fait, si tu prends le risque d'y aller, parce que ces gens-là, on n'est pas aimés, vous pensez bien, et ils cherchent la petite bête à l'intérieur. Et plusieurs fois, ça a été des conflits, et c'était la boule au ventre avant d'aller dans ce commissariat d'Ivry-sur-Seine, aller signer... dans ce comico pourri, avec ces flics pourris dans tous les sens du terme, parce qu'il y a beaucoup de bavures chez nous, entre parenthèses. Et donc voilà, donc effectivement, c'est déjà une fois par semaine, c'est lourd, mais 3 fois par jour, mais c'est poussé à la faute, quoi.
Ça sous-entend aussi que du coup, quand on doit pointer 3 fois par jour, on peut rien faire de ces journées.
On peut rien faire.
On peut absolument rien faire. Tout le temps sont chronométrés, donc on est enfermé chez soi ou sur des timings hyper serrés, et en fait, il n'y a pas de liberté.
Ouais, dernier truc, c'est du coup, il était dans une asso juste avant, et du coup, il se fait péter parce qu'il a tardé avec l'asso. Enfin, c'est 20 minutes de retard, elles sont dues à un travail associatif, quoi, enfin, du bénévolat. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de dire dans les derniers numéros et qu'on essaye de dire là depuis quelques années sur comment, quand une fois que l'État t'a catégorisé comme terroriste, comme ça a pu être le cas avant avec d'autres catégories qu'il a pu créer, en fait, les gens, juste, c'est toute leur vie qui sont traqués. Et ça passe par ces assignations à résidence, par cet enfermement dehors. Et en fait, Karim Taoudi, c'est juste un exemple qui est donné à tous les autres. Et en fait, lui, il prend cher, comme à chaque fois qu'il désigne un leader, une personne, etc. Lui, il prend toute la machine répressive. Et ce gars-là, en fait, l'État, il est en train d'expérimenter quelque chose sur lui. Parce que 12 ans d'assignation à résidence, en fait, c'est un truc de ouf, quoi. Et en fait, c'est l'État qui décide à n'importe quel moment de le déplacer. Enfin, qui décidait, puisque maintenant, ils l'ont enfermé, mais de le déplacer. D'un bled à l'autre en fonction du choix des préfets, etc. quoi. En fait, voilà, ça a juste aucun sens par rapport à la raison de sa condamnation, quoi.
Surtout pour 20 minutes de retard, quoi.
Ouais, et c'est donc vraiment une vengeance d'État qui prend depuis très longtemps. Et du coup, on lui envoie beaucoup de force et on va lire sa lettre.
Juste pour dire, en gros, il est enfermé donc au QI, là, au quartier d'isolement de Lyon-Corba, et il a publié plusieurs lettres. Enfin, il y a plusieurs de ces lettres qui ont été publiées là, sur lundi matin depuis qu'il a été réenfermé là il y a 3 mois, et où il décrit en fait son arrivée à sa cellule et compagnie. Enfin, il décrit un peu là le quartier d'isolement de Lyon-Corba. Donc voilà, si vous voulez aller y jeter un œil. Mais nous, voilà, là, c'est une lettre qu'il a écrite à l'envolée et qui nous a pas mal touchés, parce qu'en fait voilà, il parle du dernier numéro du journal. Donc je vais vous la lire. Chères toutes, chers tous. C'est avec tristesse que j'ai appris la mort d'Olivier. Dès la première phrase de l'édito du numéro 52 de l'Envolée Papier, d'octobre 2020, quand la mort d'Afed avait été évoquée, j'ai compris. Ce sont deux piliers de l'Envolée qui ont été emportés au loin, et deux voix qui continueront à porter malgré leur absence. Je ne connaissais pas Olive personnellement. J'aurais bien aimé le rencontrer, tout comme Afed. Malheureusement, nos destinées ne se sont pas croisées. Ce que j'aimais dans la personnalité d'Olivier, c'était son éternelle détermination et son invincible optimisme. Derrière sa voix enjouée et sonnante, quasi enfantine, on entendait sa force de caractère et sa détermination à lutter. Aujourd'hui, je ne peux plus entendre et écouter le générique de l'émission, mais à chaque fois que j'entends un hélicoptère passer au-dessus de la prison, j'ai une pensée mélancolique pour toute votre équipe qui a contribué à nous soutenir moralement quand nous étions dans les QI entre 2001 et 2005. Aujourd'hui, me revoilà en tôle pour une vingtaine de minutes de retard au couvre-feu qui m'était imposé depuis les 4 dernières années de mes 12 ans de perpétuelle assignation à résidence. Enfermé à plus de 5 heures de route de ma famille et toujours dans le circuit fluctuant de l'incarcération sous ses diverses formes, prison, CRA, assignation à résidence. Je tenais à vous saluer chaleureusement ainsi que tous les auditeurs et auditrices de l'Envolée. À bientôt, Kamel.
Ouais, et du coup, c'est un peu, je crois, il le dit bien mieux que nous, quoi. C'est qu'il y a, enfin, c'est vraiment quelqu'un sur lequel l'État a tout expérimenté. On est revenu très souvent sur les liens entre CRA prison, comment c'est prison pour étrangers, ça servait aussi et surtout, enfin, et aussi et beaucoup en tout cas, à enfermer des gens après leur peine, parce que l'État avait pas, enfin, parce que la justice leur avait pas mis une peine que l'État avait jugée suffisamment longue, quoi. Et qu'en fait, voilà, ce qu'il prend, c'est ce que prennent de plus en plus de prisonniers. Là, il y a tout un débat sur ce que va faire l'État des prochains prisonniers désignés comme terroristes qui vont sortir de prison là dans les prochaines années. Et tout ce qui est en train de se profiler, c'est des tentatives d'assignation à résidence, un peu comme lui, à vie pour tous celles et ceux qui sont étrangers et étrangères. Donc sur lequel il y a déjà un pouvoir administratif totalement, j'aime pas ce mot, mais totalement taré, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, ce qu'ils voudraient, ils le disent parfois, leur fantasme, c'est de pouvoir enfermer indéfinitivement, façon Guantanamo, toutes les personnes chez S. Mais vu que c'est pas possible, ils trouvent tout un tas de moyens. Alors finalement, pour les enfermer dehors, mais aussi, en fait, on le disait, voilà, pour faire des allers-retours prison CRA et en fait garder quelqu'un enfermé alors même que sa peine elle est finie, voilà, depuis un certain temps, et le faire retomber, lui refoutre une peine à l'intérieur. Voilà, c'est des classiques, on sait, avec lesquels finalement là, ils arrivent dans les fers à garder les gens enfermés même à l'extérieur, quoi.
Ouais, bah du coup beaucoup de force à lui, beaucoup de force aux gens qui le soutiennent et à ses proches. Voilà, on sait à quel point ça peut être dur et que, enfin, particulièrement quand ça dure comme ça dans la durée et que l'État met vraiment tout en place pour briser les liens familiaux, briser le soutien qui est possible. Voilà, on va te répondre et puis on continuera de donner des nouvelles dès qu'on pourra. On voulait revenir avec une deuxième lettre un peu sur cette question-là, quoi. Enfin, parce que c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire quand l'État il dit voilà, il y a des gens, ils sont désignés terroristes, qui font. On pourrait très bien le désigner totalement autrement, quoi. Mais vu qu'on dit que c'est pas, par exemple, une agression, mais c'est un attentat pour ce qui s'est passé à plein d'occasions, quoi. Et ben en fait, les gens toute leur vie, ils vont être traqués pour ça, et quoi qu'ils fassent, ils se retrouvent dans des impasses où en fait tu peux jamais t'en sortir. Et on était revenu il y a un peu plus de 2 mois, je crois, en octobre, en lisant des extraits d'une lettre qu'on a publiée après entièrement dans le numéro 52, c'est ce que je disais, où il y a quelqu'un qui expliquait qu'en fait, quoi qu'il fasse, il ne pouvait pas s'en sortir, quoi, parce qu'il était catégorisé comme terroriste. Donc, s'il se rebelle, on va dire qu'il est toujours terroriste, et donc il n'y a aucun moyen pour lui de s'en sortir. S'il commence à bien se comporter, en fait, on lui dit « Ah ouais, mais attends, si toi, tu te comportes bien, c'est parce qu'en fait, tu as prévu quelque chose. Donc, en fait, c'est encore plus chaud que d'habitude. Donc, il faut continuer de t'enfermer au QI et de te mettre la pression et la misère, quoi. » Et du coup, il nous a réécrit. On voulait lire sa lettre, lire la lettre qu'il a écrite au ministre pour l'informer de sa situation. On sait que ça risque pas de faire bouger les lignes, mais par contre, ça permet de revenir un peu en long sur sa situation, de faire connaître un peu tout ça, et donc peut-être de toucher des gens à l'extérieur. Et c'est peut-être ça. Enfin voilà, un peu nous ce qu'on peut essayer de faire pour lui là tout de suite. Et donc, on va revenir vite fait avec sa lettre, et après on va lire la lettre qu'il écrit au ministre, et puis on va revenir dessus.
Il faut attendre qu'Arthur s'installe.
Oui, pardon. Bonjour l'équipe de l'Envolée. Tout d'abord, toutes mes condoléances pour votre ami et cofondateur. Je n'ose imaginer la peine et la difficulté d'une telle perte. Mais au final, une légende ne meurt jamais. Je tiens à préciser que mon commentaire au sujet du délai de réponse n'est pas lié au temps, mais à la réponse qui m'était apporté, combiné au temps. J'avoue que lors de mon premier courrier, je n'avais pas conscience de ce que votre journal était vraiment, puisque les explications du pote qui m'a parlé de vous étaient du genre « Ouais, t'inquiète, ils sont là pour nous aider. » Je suppose que le ras-le-bol de ma condition carcérale a fait que j'ai préféré ignorer le côté journal et je suis resté focus au côté soutien. Du coup, quand j'ai percuté que vous risquiez de publier mes écrits, j'avoue avoir eu un coup de chaud, puisque je dévoilais mon identité parce que j'hésitais à faire ce que de manière anonyme. Pardon. Mais bon, c'est pas bien grave. Au final, je suis assez content du résultat. Votre manière de travailler est bienveillante. Donc oui, je suis d'accord pour publier mes courriers. Franchement, merci. Ça m'a vraiment donné le sentiment d'exister pendant un instant. De ne plus être seul. D'avoir quelqu'un qui m'écoute. Et si quelqu'un le souhaite, vous pouvez lui donner mes coordonnées. Je vous joins le brouillon du courrier que j'ai envoyé au ministre Moretti. Je pense que ça explique à peu près les conditions de tension et l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Combatif, mais dans le dialogue. En tout cas, merci de ce que vous faites. Force à vous.
Alors, avant de lire le brouillon de la lettre au ministre, je tenais à spécifier qu'il a écrit, et pour nous, anciens prisonniers ou prisonniers, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement, sur des bons de cantine. Voilà. Ça s'appelle des économies de feuilles. Ça évite de leur donner de l'oseille et de cantiner des calepins qui vaut 3 fois plus cher que dans le commerce. Donc, le coût du bon de cantine, bien joué. Poto.
Système D efficace. Alors, j'ai le courrier. Monsieur le ministre, je viens vers vous par ce courrier en réalité sans grande conviction, mais je préfère choisir ce moyen d'expression. Je suis actuellement placé à l'isolement depuis plus de 4 ans. Sans aucune évolution de la part de l'administration pénitentiaire. 4 ans que je suis géré, menotté et surveillant, équipé lourdement. 4 ans maintenu dans un régime dit strict, avec interdiction de communiquer avec d'autres détenus, si ce n'est avec des profils similaires. Dans un premier temps, il m'était dit que je devais attendre mon jugement pour enfin espérer une évolution dans ma gestion. Une fois le jugement passé, on m'a dit que je devais d'abord passer par un CNE, donc c'est le Centre National d'Évaluation. J'y suis allé et j'y ai participé le plus sincèrement possible afin qu'une évaluation la plus juste soit faite. Maintenant, que dois-je attendre? Je ne sais plus quoi faire. Cela fait plus de 3 ans que je fais des efforts concrets afin de ne plus être dans cet égarement évident qu'est la radicalité islamiste, notamment par un suivi psychologique avec le binôme de soutien avec qui nous avons fait un travail profond et de qualité, je le crois. Je ne suis pas naïf au point de croire que vous n'êtes pas au fait de mon cas, mais je ressens tout de même le besoin de vous l'exposer de mon point de vue.
je tiens à vous faire constater le caractère exemplaire de mes dernières années sur le plan comportemental. En effet, en ce qui m'a concerné, les dernières années se sont distinguées par une absence totale d'incidents violents tant verbal que physique envers le personnel pénitentiaire, le tout couplé à un investissement entier et indéniable dans le travail psychologique mis en place avec le binôme de soutien à la maison centrale de Moulins-Isère. Par ailleurs, la direction de l'administration pénitentiaire est parfaitement à même de vous certifier que j'ai, au cours de ces années, multiplié les démarches et initiatives personnelles afin de pouvoir être actif professionnellement et prendre en charge fermement et activement le paiement des parties civiles que j'entends rembourser dans les meilleurs délais possibles. Cet état d'esprit volontaire et coopératif n'est pas nouveau chez moi. Et c'est précisément là que je souhaite attirer votre attention. Alors que je n'ai de cesse de multiplier les efforts dans le bon sens et de faire au mieux pour délaisser les erreurs du passé et avancer convenablement vers la bonne voie de la réinsertion, l'administration pénitentiaire, délaissant ouvertement tout socle factuel pour étayer sa position, car les faits plaident incontestablement en ma faveur, a instauré un schéma tout à fait malsain, consistant à prôner systématiquement le renouvellement de mon isolement et le maintien d'une gestion menottée équipée, impliquant l'impossibilité de travailler ou de suivre des cours afin de passer le bac, et ce, sur la seule base du doute quant à la sincérité des faits indéniables et multiples prouvant mon sérieux et mon désir de rattraper mes fautes antérieures. De surcroît, cela fait plus de 6 mois que je suis à la maison centrale de Saint-Maur, où la possibilité d'un suivi psychologique ne m'est plus donnée, notamment par l'absence de réponse à mes multiples demandes écrites. J'attire donc par le présent courrier sur cette systématisation malsaine pratiquée par l'administration et souhaite que votre vigilance se porte sur l'incohérence et l'injustice d'une telle pratique afin que cette spirale soit enrayée, car elle est une opposition injuste à la voie de la réinsertion, et donc un reniement total des valeurs qui fondent et animent un état de droit. Car comme nous le savons tous, jamais un état de droit solide sur ses valeurs ne permettra qu'un citoyen appliqué, investi et méritant, preuve factuelle à l'appui, ne soit lésé de ses droits sur base de suppositions et de doutes au détriment du factuel. Afin que vous preniez conscience de la réalité dans laquelle je vis, je suis libérable en 2048, c'est-à-dire à quand j'aurai 56 ans, suivi d'une peine additionnelle de 10 années de suivi socio-judiciaire. Donc, je serai officiellement libre à mes 66 ans. Avec de telles conditions de détention sur une telle durée, que me reste-t-il comme espoir pour une réinsertion sociale positive? Suis-je toujours français? Ai-je encore des droits? Ou tout simplement, suis-je encore un être humain? Puisque tous mes échanges se font à travers la grille de ma cellule, aumônier, SPIP, chef de bâtiment, etc. J'ai fauté lourdement, je l'ai reconnu et regretté amèrement. Je purge donc ma peine, mais je fais des efforts et j'arrive à un stade où j'ai besoin de sentir l'aide de l'administration pénitentiaire dans mon cheminement vers la rédemption, et cela passe par des signaux, certes faibles, mais qui symboliquement pour moi signifient beaucoup et me montrent que malgré l'horreur de mes erreurs passées, on croit en moi et me donne une chance. Alors je n'ai pas droit de décevoir ma famille, mes enfants et mon pays que je n'ai au final jamais cessé d'aimer. Dans l'attente d'un retour, qui je l'espère fera évoluer ma situation positivement, monsieur le ministre, veuillez recevoir mes sincères salutations.
Poignant, quand même.
Ouais, quand même.
C'est
fort,
ouais. Ouais, bah ça dit mieux encore que tout ce qu'on vient de dire, quoi.
Ça résume très, très bien et c'est très sincère et c'est très. J'espère que le ministre.
Ah, il faut parler dans le micro.
Ah, faut parler dans le micro ? Ah bon ? Autant pour moi. Donc j'espère que le ministre tiendra compte de ses écrits. Parce que vraiment, c'est poignant et j'ai pas de mots en vrai.
Bah, moi, je voulais peut-être revenir déjà sur la première partie de la lettre, celle qui nous est adressée. Merci de nous réécrire. Ouais, effectivement, le truc, c'est que je crois que les réponses, elles ont un peu switché entre le moment où tu as répondu et le moment où le journal il a été fait et publié. Mais on s'était dit que c'était important de le publier, ce courrier, parce qu'on pense que c'est important de raconter ce qui se passe et ce que met en place l'État. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont invisibles dehors. On en entend quasiment jamais parler. Et c'était aussi...
Et on voulait surtout pas faire comme l'administration pénitentiaire, te laisser aucune chance, en vrai.
C'est ça. Et on pense que c'est important que ça reste dans l'écrit, en vrai, et qu'on fait des journaux le plus souvent possible, mais qu'on n'en fait pas tous les jours non plus, et qu'on pense que c'est important que ça reste. Et on le fera tourner au maximum, parce qu'on pense que cette parole, elle est importante à être relayée. C'était aussi pour dire que voilà, nous, on essaye de se faire un maximum le porte-voix des histoires qu'on entend, de soutenir comme on peut, mais qu'en vrai, on reste une petite équipe qui soutient comme elle peut, mais que les choses, elles doivent venir principalement des prisonniers et prisonnières, et que nous, on est là pour relayer, pour soutenir, pour essayer de faire entendre cette parole.
Oui, après, bon, c'est juste... Mais nous, personnellement, bah, comme on le dit bien dans le journal, nous, on ne pense pas que le ministre il va faire quoi que ce soit pour les prisonniers. Donc, même si c'est bien que cette lettre, justement, elle tourne en fait, au-delà du ministre, parce qu'on ne pense pas que c'est le ministre qui va faire quoi que ce soit. Ouais. Enfin, comme tu dis, c'est quand les prisonniers, leurs proches vont se bouger, qu'il va peut-être... c'est qu'eux qui peuvent réussir à...
Ouais, il est juste bon pour prendre l'oseille quand il faut défendre certaines personnes et que maintenant, en vrai, ça ne le concerne plus. Parce qu'il n'y a plus d'oseille à prendre, à part du côté de l'État maintenant, son salaire de ministre.
Ouais, puis bon, du coup, là, ce que tu disais, ça revenait plutôt sur la deuxième partie. Et du coup, moi, je suis assez d'accord donc, sur la lettre sur le ministre. Enfin, on pense que ce que tu dis, en vrai, c'est très vrai et que ça mérite d'être relayé partout, mais que c'est sûrement pas cette personne-là qui risque d'améliorer tes conditions, malheureusement, et que c'est vrai qu'attendre des signaux de la paix, ça risque... C'est la galère, quoi, vu la politique actuelle et vu qu'en fait, en ce moment, ils sont plutôt sur comment essayer de continuer à créer des gens pour que ça rentre dans une catégorie, continuer à élargir cette catégorie, parce que en fait, là, c'est ce qu'ils préparent avec les prochaines lois, avec tout le discours politique ambiant chelou qu'ils ont fait là depuis un an sur les questions de séparatisme d'État, d'islamisme, de blablabla.
Mais le truc, c'est que t'en parles très très bien et qu'il y a d'autres cas qui vivent la même chose que toi. Je pense notamment à des gens qui ont tenté de s'évader à plusieurs reprises. C'est pareil, on leur donne exactement... aucune chance telle qu'il le vit. Je pense à plein de monde, voilà, que j'embrasse.
D'ailleurs. Ouais. Et voilà. Et on passe beaucoup de force aux copains qui sont, enfin, nos copains aussi qui sont au QI et qui galèrent s'ils arrivent à capter l'émission. Mm-hmm. On continuera de donner des nouvelles si la correspondance elle continue. Merci. Enfin, en tout cas, merci parce qu'on sait que c'est ce qu'on disait. Hein, c'est aussi toujours une prise de risque que de sortir un peu des... Enfin voilà, d'essayer de faire sortir la parole, de pas juste se contenter d'écrire au ministre en vrai, mais de relayer plus largement. Et voilà, du coup, beaucoup de force à toi. Et on continuera de donner des nouvelles. Là, on va vous lire un peu une lettre d'un copain qui est dans un quartier d'isolement aussi, qui subit une répression particulière, plutôt celle de l'administration pénitentiaire, particulièrement, quoi. Que celle de l'État, enfin, je sais pas comment dire. Mais du coup, on a souvent donné de ces nouvelles. On avait raconté un peu comment à Vendin, ça se passait pas très très bien pour l'infâme. On voulait revenir un peu sur la situation, donner un peu des nouvelles. On rappelle qu'il s'est fait agresser violemment par une équipe il y a un peu plus d'un mois, qu'on a relayé cette lettre et qu'elle est sur le site pour celles et ceux qui ont accès à Internet. Une des premières émissions de décembre ou une des dernières de novembre, et que du coup cette agression a été très violente, que suite à ça ils ont aussi coupé des lignes qu'il avait pour l'empêcher d'avoir des contacts avec l'extérieur, avec des motifs
des lignes téléphoniques,
ouais, parce qu'il a le droit à un certain nombre de téléphones et que dans les cas, il a le droit jusqu'à 20 numéros que l'administration pénitentiaire doit d'abord enregistrer, qu'ils doivent d'abord valider. Ça avait déjà été une galère pour que la personne soit validée. En plus de ça, au bout de quelques jours, il lui coupe la ligne. C'est un truc qui est... Enfin, c'est clairement pour lui miner le moral. Et ça vient en fait dans la suite de ce qu'ils lui ont fait subir. On en avait beaucoup parlé à l'époque avec Fabrice. On en avait parlé aussi au début quand ils lui ont fait miroiter pendant longtemps le transfert à Poissy pour finalement l'envoyer à Vendin sans le prévenir, sans le mettre au courant de rien, en faisant genre que c'était un transfert disciplinaire, tout ça. Et ben en fait, c'est dans la suite de ce harcèlement pour essayer de le briser, pour essayer de faire qu'il ait le moins de contact possible. On rappelle juste que peut-être rapidement que Vendin, c'est une des prisons les plus sécuritaires de France, qui est un peu comme Condé-sur-Sarthe, un peu dans la même volonté que d'autres centrales qui sont genre très sécuritaires.
La petite sœur de Condé-sur-Sarthe, elle a été créée tout de suite après Condé, et inaugurée par Sarkozy d'ailleurs, et Taubira d'ailleurs.
Les aussi prisons,
après,
Taubira, ouais,
par Taubira,
les nouvelles prisons modèles qui servent de d'exemple pour la suite, quoi, finalement. C'est là-dessus qu'ils aimeraient s'appuyer pour continuer à construire, avec des régimes hyper individualisés, plus de matons que de de prisonnier, un régime ultra-sécuritaire.
Et je tenais aussi à dire, se connaissant très très bien l'infâme, puisqu'avant d'être un prisonnier qui nous écrit, c'est d'abord un vrai poteau, qu'il a incarcéré depuis l'âge de ses 17 ans, qu'il en a 36 aujourd'hui, et qu'il n'est pas prêt de sortir.
Ouais. Qu'il est principalement de la peine interne.
Et c'est ce que j'allais te dire exactement. Pardon. Non, mais tu as bien fait. J'aurais pas dit peine interne, j'aurais dit c'est pris d'autres peines. Tu vois, mais effectivement, il est tombé pour une peine de 3 ans, je crois. Et depuis les 3 ans pris à ce jugement, il s'est pris des peines intérieures.
C'est-à-dire pour des revendications, des moments où il a essayé de lutter, l'administration pénitentiaire a porté plainte.
On parle dans un micro, Alex.
Et à porter plainte, et du coup, depuis que c'est Arthur à la technique, ça déconne totalement cette émission. Du coup, à porter plainte, en fait, il a pris pas mal de peines de prison. Juste pour dire, pour Vendin, parce qu'il y a eu, il y a à peu près un an, il y a un copain qui appelait assez régulièrement, qui s'appelle Sabri, et qui était revenu un peu sur la manière dont ça se passe dans ces prisons-là, c'est-à-dire où en fait ils sont dans une telle logique sécuritaire qu'ils doivent prouver en permanence pourquoi ils sont surarmés, pourquoi ils sont en surnombre, pourquoi ils écoutent toutes les conversations, ils lisent toutes les lettres, etc. Et donc en fait, pour n'importe quoi, il y a des retenues de lettres, ils portent plainte ou ils envisagent de porter plainte pour diffamation, ils tapent où il y a des violences et du coup ils en profitent pour porter plainte. Et rappeler en fait, Sabri à ce moment-là, qu'il y a des gens, des fois ils prenaient jusqu'à genre 3 comparutions immédiates ou 2 comparutions immédiates en une semaine, et du coup ils pouvaient prendre genre 3 ans, 4 ans, 7 ans dans la même semaine. Et tout ça permet de justifier en sous-main pourquoi ils sont aussi nombreux, pourquoi soi-disant on a besoin, enfin l'État a besoin de ces gens-là pour maintenir des prisonniers qui seraient pas tenables. Et en fait, la logique, elle est quand même plutôt contraire. C'est-à-dire que pour pouvoir se sortir de Condé-sur-Sarthe, une des seules manières, et Vendin, c'est un peu pareil pour le QI, c'est d'avoir un transfert disciplinaire. Et pour avoir un transfert disciplinaire, il faut avoir un acte qui puisse être réprimé, quoi. Et du coup, on met les gens dans une logique où dans tous les cas ils vont se faire éclater, et surtout dans tous les cas ils vont pouvoir auto-justifier pourquoi il y a besoin d'être de plus en plus armé et de plus en plus violent.
Voilà. Il faut rappeler que Condé-sur-Sarthe et Vendin-en-Veille, normalement c'est une prison qui accueille les détenus désignés par l'État dangereux, et que au bout de 3 ans je crois, passés dans cette tôle, ils sont réinsérable pour aller dans une prison plus sécuritaire, qui n'est moins sécuritaire. Bien évidemment, c'est un délai qui n'est pas respecté, puisque certains ont fait 6 ans, 7 ans, dans des tôles comme celle-ci, où ils sont enfermés comme en maison d'arrêt, 23 heures sur 24, où ils sont accompagnés de 4, 5, 6, 7, selon ta catégorie de dangerosité désignée encore une fois par l'administration pénitentiaire, donc encadrée par des surveillants à chaque déplacement, qui sont 6 par aile, que s'ils veulent faire un match de foot, ils sont 3 et 3 dans chaque équipe, que par exemple au sport il faut taper au carreau, attendre que 4-5 surveillants arrivent pour pouvoir aller aux toilettes, par exemple. C'est un peu le ce qui règne dans ces tôles pour ouais.
Ouais, non, voilà. Et donc, pour dire, là, on va lire une lettre de l'infâme. Pour rappel, donc, ce que je disais au début, il y a eu donc son arrivée à Vendin. Après, ils lui ont quand même mis sacrément la misère. On était longuement revenus dessus. Il y a eu ces histoires de violence contre lui. Et après, il y a eu ces histoires de condamnation à des espèces de QD dans le QI, où il prenait son état. Il a été jugé incompatible avec le quartier disciplinaire. Mais du coup, ils lui infligent un quartier disciplinaire dans sa cellule, où ils lui ont retiré tout son matos. Et ils n'arrêtent pas de lui mettre du prétoire pour continuer à ce que ça s'allonge. On l'a déjà dit, normalement, c'est pas plus de 30 jours. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des jours et des jours. Et du coup, là, on a été à 54 jours à partir du 5 décembre. Ça continue de grimper. Et on va revenir dans sa lettre qu'Arthur va nous lire, quoi.
Ouais, c'est des extraits en fait de lettres qu'on a pris de ce qu'il nous a écrit.
Oui, parce qu'en fait, il est littéraire, hein, la femme. Il écrit beaucoup, beaucoup. Hein.
Ouais, faut lui reconnaître un petit
ouais,
peu.
Et d'ailleurs, on rappelle que voilà, si vous voulez lui écrire, faut pas hésiter à nous contacter. On vous transmettra ses coordonnées pour lui écrire. Et voilà, et du coup, là, dans ce, bah, les extraits qu'on va vous lire, là, il revient là, sur ce que tu disais, Alex, sur ces histoires de. Enfin, les peines qu'il a prises bah, pour l'agression qu'il a subie, qui est un classique. Hein, on parle souvent de gens qui se font violenter ici et qui, derrière, en fait, se prennent des peines. Et donc, il parle de ces conditions, du coup, voilà, dans ce QD qu'ils sont obligés de lui organiser dans le quartier d'isolement, vu qu'il est pas, il a été déclaré inapte au mitard. Alors. Niveau conditions de détention et tout le tralala qui va avec, bah la routine. C'est toujours une merde sans nom. Mais bon, à la longue, on s'adapte. Pas le choix, hein. Bref, mardi 8 décembre, ils m'ont refoutu encore 28 jours de confinement strict dans la gueule. Ce qui fait que je devais alors effectuer en tout, avec la sanction que j'effectue actuellement, 82 jours de confinement strict au quartier d'isolement. Ou cachot déguisé, comme je l'appelle. Comme je l'ai expliqué dans mon précédent courrier, ce confinement strict réunit toutes les pratiques du quartier disciplinaire. Ou presque, parce qu'ils m'ont laissé le bigot cabine en cellule. Mais suppression des matériels cantinés par l'administration pénitentiaire, ou loués à la paix, et j'ai le même système de cantine qu'au cachot, que les essentiels. Tabac, hygiène, correspondance. Mais, car il y a un mais, au final, de 28 jours ajoutés, c'est redescendu à 14 jours. Comment ? Par des motivations sombres et plutôt louches. Les sanctions, tombées deux jours plus tard, donc le 10 décembre 2020, ont été modifiées et elles ont été confusionnées ensemble. Ce qui est une blague monumentale. Certes, ça raccourcit la sanction de 14 jours, mais je ne reste pas moins condamné, alors qu'il y aurait dû avoir relax. Le motif de la confusion, apparemment, lors de la commission de discipline, il y aurait eu un soi-disant problème informatique. Et ce soi-disant problème informatique aurait empêché l'ordinateur de confusionner les deux sanctions. Comme si c'était à l'ordinateur de réfléchir et de confusionner lui-même à cela. Waouh! Incroyable, ils ont des ordis du turfu ici. Truc de ouf, hein. L'ordi intelligent qui réfléchit et agit encore mieux qu'un être humain, tout en restant un ordinateur. Même aux States, ils l'ont pas, cet ordinateur. Mais avant d'un le vieil, ils ont un ordinateur du turfu comme ça. Mais bon, un vrai conseil que je peux donner, en ce qui me concerne, à chaque être humain sur cette terre, c'est, quand on veut mentir à quelqu'un, il y a une règle principale à respecter, qui est savoir mentir. Et l'autre conseil, en ce qui me concerne toujours, c'est que quand on veut me mentir, il faut s'assurer que l'histoire soit crédible. Car comme je dis souvent, quand on ne sait pas mentir, faut pas mentir à un menteur. Sinon, ça se voit.
Comment je te kiffe, mon pote. Il est bon.
Selon moi, les motifs qu'on m'a avancés pour justifier la confusion des deux sanctions est motivé par bien autre chose. Me sachant procédurier, je les ai avertis dès la commission de discipline que je lancerais des recours pour contester les décisions. Et sachant qu'ils étaient allés trop loin et qu'ils avaient plus que dépassé ce que la loi autorise, ils se sont dit, on va confusionner les sanctions, ça donnera un aspect légal à tout ça. Et pour justifier que ça ait eu lieu, deux jours après la commission, ils vont évoquer le problème informatique et mettre sur le compte de l'ordi qui a bugué, soi-disant. Comme ça, les motivations de rectification passent comme une lettre à la poste. Sauf que le coup de la panne, c'est comme le coup du tunnel, on me la fait pas, celle-là. Mais je ferme ma gueule, j'ai rien à leur dire.
Yes, eh ben, merci beaucoup pour les nouvelles photos. Et on continuera d'en donner et on t'envoie beaucoup de force. De toute façon, voilà, enfin, on continue de garder le contact, même quand il y a pas le direct, quoi. Enfin, on donnera des nouvelles dès janvier. Et là, on va faire une petite pause après toutes ces infos. On continue de donner beaucoup de force là, bah, aux trois personnes dont on a lu les lettres et qui prennent particulièrement cher en ce moment. Et du coup, voilà, beaucoup de force à vous. Et on revient dans quelques minutes.
On te mettra bien frérot, y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Quand tu sortiras, quand tu sortiras. Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot, y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux, ils ont fait de toi une bombe. Tu trouves la fuite dans la défense ou dans le sport, les petits gestes de dehors qui comptent. La tôle, une putain d'impasse, ça remet du putain de patience et des tours de passe-passe pour tromper la vigilance des matons. C'est la carotte et le bâton et ta parole ne vaut rien. Tu vivotes et les saisons passent, tu sanglotes mais tu gardes la face. Comment courber les chines et rester digne, l'espoir fait vivre et nous maintient en léthargie. C'est quand t'as plus rien à perdre, tu te permets d'agir. Mais y'a toujours une femme qui t'aime, des proches qui tiennent à toi. Nos forces sont aussi nos faiblesses. En attendant, je lave tes chaussettes sales. Et chaque dimanche, on se remonte le moral. Hein. Et chaque dimanche, on se remonte le moral. Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot.
Y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux.
Exclu de ce monde, t'arpends ta cellule. Tu tournes en rond, passe à la pilule. Ça crie à la fenêtre, trafic des barrettes. La boxe t'exulte, te culte du corps. Tes pecs, gros comme ma tête. Au parlu, le câlin du début, le câlin de la fin. Et nos grands débats qui nous laissent sur notre fin. Une putain d'heure, c'est si court. Une putain d'heure, c'est si court. Une putain d'heure, c'est si court. Une putain d'heure, c'est si court.
Tu fais des tours de cours de promenade. Ton esprit vagabonde, tu prends large.
J'dis bonjour au maton en mordant mes lèvres. J'arrondis les angles, tu sens le malaise. Seul on rame, la tête dans le guidon, on a du mal à s'unir. J'rêve de voir leur tôle cramer. Arracher le licol, on a poussé de traviole. C'est ça qui nous unit. La crasse, on la connaît. La farce, on la connaît, ouais. La farce, on la connaît.
Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot. Y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Quand tu sortiras, on te mettra bien frérot. Y'a pas moyen que tu retombes. T'as déjà passé trop d'années derrière les barreaux. Ils ont fait de toi une bombe. Quand tu sortiras.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Et pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Mais il y a aussi le portable.
Le 07 52 40 22 48.
Et si vous voulez réécouter les émissions ou avoir des infos, n'hésitez pas à aller checker le site. Du coup, on vient de s'écouter...
Quel site ?
Ah, le site L'Envolée, l'envolée.net. Du coup, on vient de s'écouter Rature, et son son, c'était Quand tu sortiras.
Et maintenant, on va passer à une lettre de proche.
Ouais, du coup, il y a une proche d'un prisonnier qui nous a écrit. On va pas donner son nom ou la tôle où il est enfermé. Par contre, on trouvait ça important de relayer l'histoire. Et puis voilà, enfin s'il y a besoin, on le fera dans les prochains temps. On continuera de donner de ses nouvelles aussi si y a l'occasion. Et donc voilà, là on va vous lire la lettre.
Ouais, non, c'est juste pour dire, ouais, en fait c'est ça, c'est que on vient de la recevoir, donc on n'est pas encore exactement sûr, mais c'est juste pour prévenir en fait déjà pour que ça sache et dire que nous on est au courant en fait, qu'on sait très bien voilà ce qui se passe et que c'est juste là on veut pas révéler à personne, on sait pas si elle est d'accord, mais
en tout cas elle est tamponnée d'un gros urgent. Et donc, on la lit de ce pas.
Je soutiens un détenu. Voici les conditions de sa détention. Il a subi... Il a subi de mauvais traitements. On lui fait boire de l'eau des WC. C'est ça ou rien, disent les surveillants. Pour les douches, c'est deux par semaine, et encore, quand celles-ci sont propres. Et c'est peu dire. Son courrier n'est pas envoyé. Ni à son avocate, ni à la SPIP, ni ailleurs. Ses médicaments lui sont donnés au compte-gouttes. Il a très mal au dos, attend un rendez-vous pour ses dents et ses yeux depuis 4 ans et demi. Son état de santé se dégrade. Sa prise de sang n'est pas bonne. Il a du cholestérol et des GMGT. Il voudrait être transféré. Il n'est pas à sa place dans cette maison d'arrêt. À chaque parloir avec sa mère, il a une fouille à nu. Fouille de vêtements, même le caleçon, est mis à l'envers. Il le laisse nu devant une glace à la vue des surveillants. C'est humiliant. Les cantines, il y a des manquements. Les jeux de société, les livres, jeux de dés, pinceaux, pour son activité dessin. Tout ce que je lui remets m'est retourné. Refusé par le propriétaire. Faux, archi faux. Les paquets sont neufs, sans blister. Tout me revient. Pourquoi le priver de ces objets qui lui améliorent le quotidien? Ils sont trop dans les cellules. 5 dans une cellule de 4. L'autre dort au sol sur un matelas devant la porte. La maison d'arrêt ne prévient pas la famille en cas de problème grave. C'est une honte. Il faut écrire au directeur. Il a le temps de mourir 20 fois. Il voudrait aller en SMPR ou en VHSI. On l'a forcé à quitter l'ISO où il était. On lui a fait signer un document pour travaux, qui est faux. Ils ont mis quelqu'un à sa place. Je m'étais renseigné pour une formation de pâtissier. C'est sa passion. A-t-il reçu une documentation ? Il veut s'en sortir, on lui met des bâtons dans les roues. Se lui verse un petit peu chaque mois pour améliorer son quotidien. Eh bien, il lui prélève une somme qui lui sera remise à sa sortie. C'est maintenant qu'il en a besoin, pas après. Actuellement, il est dans une cellule sans chauffage. Il n'a pas de vêtements. Pas de vêtements chauds. Il a froid. Il a beaucoup maigri. Il a des marques de coups au dos, au bras, des strangulations. Il n'en peut plus. C'est un appel au secours. Il a fait déjà beaucoup de tentatives de suicide. Il est au bout du rouleau. Il n'est pas entendu. Seule son avocate se démène pour trouver une solution. Je le soutiens également comme je peux. Que pouvons-nous faire ? À l'aide. Merci, cordialement.
Cet homme vit véritablement des actes de torture, et encore une fois, qui vont au-delà des conventions des droits de l'homme. Faut rappeler que le fait qu'il boit l'eau des toilettes est arrivé il n'y a pas longtemps dans une prison où un homme est mort au mitard.
C'était à Corba.
C'était à Corba, exactement. Où on pousse les gens à bout. Encore une fois, je suis même en train de me poser la question si le proche est d'accord pour qu'on publie la lettre, dans le journal, enfin sur le site, pour protéger ce monsieur, parce que ses jours sont en danger, clairement. Nous sommes le vendredi 18 décembre, il est toujours en vie.
Ouais, parce que tu parlais d'Idir, mais en fait aussi là quand il dit que la maison d'arrêt on te prévient même pas quand il se passe un truc grave, en fait ça rappelle un truc dont on a parlé la semaine dernière, c'est la mort de Toufik. En fait, la famille est prévenue des semaines plus tard qu'il a été emmené à l'hôpital et qu'il est mort à l'hôpital. En fait c'est exactement ça, là il y a des gens, et en fait on sait plein d'histoires comme ça de gens qui ont des problèmes de santé, qui peuvent crever en prison, et là en fait la paix s'en fout, et c'est à la fois pour les gens c'est horrible, mais encore aussi pour les proches qui ont aucune nouvelle et savent que les gens sont en danger de mort à tout moment et ne savent pas quoi faire.
Ouais, puis en fait, je pense que dans tous les journaux de l'Envolée auxquels nous on a participé ou qu'on a lu ces derniers temps, il y a souvent une partie sur les morts en prison. Et en fait, là, depuis 2 mois, dans quasiment toutes nos émissions, il y a une histoire de quelqu'un qui est soit proche de la mort, en fait, soit qui est mort en prison. Que ce soit poussé au suicide parce que les conditions d'enfermement, le comportement des matons, matones, etc. Soit sur des violences et des trucs qu'on a la gentillesse d'appeler mort suspecte. Voilà. Et en fait, c'est un truc, je dis même pas que ça s'accélère, hein, c'est juste que les gens font sortir la parole de plus en plus et qu'il y a un vrai taf qui est mené par les prisonniers, prisonnières, par leurs proches, pour pas que ça reste dans l'oubli. De la même manière, qu'il y a toujours un gros taf qui est fait pour les gens qui meurent dehors sous d'autres coups, d'autres personnes en uniforme, mais sur les violences policières, etc. Et que ça a été un gros taf, et que c'est un gros taf déjà dehors, de dire qu'en fait c'est possible que l'État tue, quoi, que à travers lui les gens armés par l'État tuent, et que en fait en prison c'est encore plus dur. C'est encore plus dur parce que c'est vraiment parole contre parole, quoi, et qu'en fait c'est juste des courriers qui sortent, des petites infos comme ça à l'occasion, mais qu'en fait tout le reste du temps c'est la matonnerie et la paix qui a le temps de faire les rapports, tout ce qui est officiel, enfin tout ça, quoi. Et que c'est ce que tu racontais, en fait il y a toute une, dans le cas d'Idir, dans le cas de la personne qui est morte à Perpignan et tout, en fait il y a toujours un truc de la paix qui met le plus de galères possible aux proches, pour qu'ils aient accès le moins possible à la vérité, le moins possible au corps, que la personne soit enterrée le plus vite possible. Il y a des pressions, ça arrive régulièrement, on le sait, quoi. Et du coup, c'est juste insupportable. Et c'était aussi pour dire qu'en fait, la parole de ses proches, et de ses prisonniers, elle est hyper importante. Il faut la légitimer, il faut la faire tourner en fait un maximum, parce qu'il faut que tout le monde puisse, enfin tous les gens qui le subissent puissent s'en saisir et relayer un maximum, quoi.
Il faut surtout que les gens arrivent à se mettre à la place de ses proches, de ses familles, qui vont voir leur gamin, leur mari, leur papa, leur maman, et qui à la fin du parloir lui met un sourire sur le visage, et en fait c'est des semaines de souffrance à l'instant T où nous avons mis le pied en dehors de ce parloir. Voilà, ça veut dire que cette proche là elle ne vit pas, elle ne peut plus vivre en sachant la personne qu'elle soutient dans cet état-là à l'intérieur. Il faut arriver à comprendre la situation, arriver à un moment.
Ouais, et puis il faut arriver à légitimer vraiment cette parole, en fait, qu'on ne puisse plus la, enfin, qu'elle soit vraiment relayée, et que du coup il n'y ait plus un truc de bah ouais, c'est des gens juste qui parlent et du coup il n'y a pas de preuve, quoi. En fait, le fait que les gens prennent le risque de faire sortir cette parole-là, c'est une preuve en soi. Et juste, faut croire les gens et il faut relayer un maximum, faut légitimer, il faut soutenir. Il y a des mobilisations qui se passent à l'occasion dans les villes localement, faut s'y renseigner, faut aller faire, enfin. Il faut aller montrer qu'il y a de la force et du soutien, quoi. Parce que c'est comme ça que ça a avancé sur les questions de violence policière, beaucoup avec des familles qui sont battues pendant longtemps, qui continuent de se battre, à la fois sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan de la lutte au quotidien, pour faire vivre ces histoires, faire vivre, essayer de trouver une vérité, et si ce n'est pas une justice, en tout cas, voilà, un écho, quoi, autour de leur histoire, essayer d'obtenir la fin de clés d'étranglement, de mener des vraies campagnes de lutte. Et en fait, c'est aussi important que ça puisse arriver pour les gens qui meurent ou qui souffrent, qui se font maltraiter en prison, quoi. Parce que c'est clairement de la torture, ce qui est raconté dans cette lettre, quoi. Et on en avait parlé pour Corba, hein. C'était aussi clairement de la torture, quoi. Il n'y a pas d'autres
mots.
Il n'y a pas d'autres mots, je crois. Enfin, voilà, quoi.
Non, puis c'est comme ça qu'on pousse les gens au suicide, en vrai. Et ça s'appelle pousser. Pour moi, c'est pareil qu'une morsure. C'est un meurtre, en vrai, clairement. C'est de la torture psychologique, ça, c'est très grave. Ouais. C'est très grave.
Juste pour dire que voilà, en fait, depuis des mois et depuis bien plus longtemps, on s'en fait le relais et que ça n'arrive pas dans une prison à cause d'une équipe de matons. C'est comme quand on parle dans les centres de rétention des violences policières, ça se passe pas dans un centre de rétention avec une équipe de keufs. En fait, ça se passe dans quasiment tous les centres de rétention, dans toutes les prisons, y compris dans les hôpitaux psychiatriques, dès qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, quoi. Et en fait, c'est des trucs qui se passent partout où il y a toujours une gestion par l'administration en place des bons et des mauvais, et de ceux qu'on va mettre tranquille au mitard, tranquille dans les lieux où il n'y a pas de caméra, pour qu'ils puissent foutre la peur, en plus de la peur judiciaire ou de la peur de la continuité de l'enfermement, quoi, qu'il y ait une vraie terreur par le corps. Et ça arrive quasiment partout, quoi. Et donc c'est pas un problème d'une équipe, quoi. C'est vraiment un problème de la prison, et la prison, elle peut fonctionner que comme ça, quoi. Le mitard, ça doit faire peur. La cellule d'isolement en centre de rétention, ça doit faire peur. De la même manière que la camisole et la cellule d'isolement en HP, ça doit faire peur, quoi. Et pour ça, en plus du fait d'être encore plus enfermé, il faut aussi que les équipes de matons, elles soient encore plus violentes, quoi, quel que soit leur uniforme. Voilà. Et du coup, on va revenir sur autre chose, mais sur d'autres formes, en fait, de
pression.
De pression, de comment l'État, il essaye de. Enfin, comment l'administration pénitentiaire, elle limite les droits des gens à leur parloir, à leurs liens familiaux, tout en écrivant bien dans leur texte que crari les liens familiaux, c'est leur priorité, blabla. On sait très bien que les trois quarts des transferts, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se fait. Et que c'est bien plus simple d'obtenir un transfert disciplinaire qu'un transfert pour rapprochement familial. Mais que, dans certaines prisons. Comme dans certains centres de rétention, de plus en plus l'accueil ou des services sont sous-traités, quoi, du privé, et que déjà que c'est la galère avec la paix en général d'obtenir un parloir, encore plus en temps de Covid où quand t'as pas accès à la bande, tu dois appeler, enfin bref, des galères, tout le monde peut imaginer à quel point une prison et un service parloir, ça doit pas être facile à joindre. Et du coup, on voulait donner quelques nouvelles
du centre de détention de Nantes. Disais sur le truc des parloirs, ouais, ça parle de ce truc qui est, en fait, là-bas, c'est une boîte privée qui gère la prise de rendez-vous, je crois, par téléphone. Et juste pour dire, c'est un truc qui, dans la nouvelle loi, la sécurité globale, dont on a déjà parlé, c'est un des trucs, encore une fois, qui, dans cette loi, est prévu d'élargir, qui est de plus en plus de sécurité privée dans les lieux d'enfermement. Et encore une fois, c'est aussi une loi qui est promue par un mec qui, lui-même, est un ancien de l'armée et de la police qui a des intérêts, enfin, ou des potes dans la sécurité privée, quoi. Et donc là, ce qu'on va vous passer, c'est deux enregistrements de témoignages qui ont été envoyés à l'émission Casse-Muraille, qui est une émission contre les prisons qui est à Nantes, qui passe sur Jet FM le dimanche midi. C'est 91.2 FM. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont autour de Nantes, vous pouvez écouter cette émission. Et donc là, il passe, donc c'est une émission qui fait à la fois des dédicaces et aussi, qui relaie différents trucs. Et là, il relaie deux témoignages, donc je crois que c'était il y a deux semaines, de personnes qui parlent, en fait, des galères pour accéder au parloir au CD de Nantes depuis plusieurs mois. Donc voilà, on va vous les mettre, il y en a deux petits enregistrements.
En ce moment, je dois me réjouir si j'arrive à avoir un seul parloir par mois. C'est pas faute d'harceler le service téléphonique de réservation des parloirs. Depuis le premier confinement, ils ont restreint le nombre de cabines disponibles et le nombre de tours de parloirs. Donc moins de place quand on réserve. Puis ça fait un petit moment qu'ils ont mis en place un site en ligne pour réserver les parloirs. Le service téléphonique est ouvert du lundi au jeudi et ils sont très durs à joindre, alors que sur le site internet, on peut réserver les parloirs dès le samedi. Donc le lundi, quand on appelle le service téléphonique, il n'y a plus de place. Elles ont toutes été réservées le week-end sur internet. Ça veut dire que si on n'a pas accès à internet, si on galère à lire, à écrire, si on n'a pas d'ordi, bref, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne peuvent plus réserver de parloirs. Même la boîte privée qui s'occupe de réserver les parloirs par téléphone s'inquiète de la situation. Ils m'ont dit que, comme moi, plein de gens n'avaient plus de parloirs et qu'ils allaient faire remonter l'information à la prison. Alors même si ces gens-là se bougent, enfin. C'est aussi qu'ils ne servent plus à rien s'ils n'ont plus de place à proposer. Faudrait pas qu'ils perdent leur job.
Voilà, donc ça, c'était le premier témoignage qui était assez court et qui parlait vraiment de cette boîte privée qui gère les prises de rendez-vous au téléphone. Et là, je vais vous en mettre je mets tout de suite le deuxième, qui est un peu plus long et qui est là qui raconte un peu plus les galères sur plusieurs mois d'accès à un parloir et en fait, est-ce que ça fait au lien entre les prisonniers et leurs proches, quoi.
Bonsoir. Vous avez dû avoir des nouvelles depuis, mais c'est juste l'enfer actuellement. On ne s'entend plus avec les plexis et on se voit à peine avec les reflets et le plastique sale. Je sais pas comment on peut imposer ça à des humains. Mon conjoint a une maladie grave. Il a une extraction médicale prévue à une date inconnue. Depuis samedi, j'essaie de prendre des rendez-vous parloir pour le week-end du 12-13 décembre. Mais étrangement, impossible sur Internet et les créneaux réduisés d'heure en heure. J'ai été alors à la borne au centre de détention. Pas possible non plus de prendre de rendez-vous. Cela m'indiquait contacter le service parloir. À l'accueil, personne ne peut me répondre et on me conseille d'appeler. Mais je voyais bien qu'il ne restait déjà plus que 2 créneaux le matin à 8h. Lundi, aujourd'hui donc, j'ai appelé à partir de 8h, sachant que je travaille la semaine. J'appelle sur le numéro payant plus d'une centaine de fois, sur mes heures de travail. J'arrive à avoir enfin quelqu'un vers 15h. Bien sûr, il n'y a plus de place. J'explique ma situation. La personne me dit qu'elle comprend car je ne suis pas la seule, que je suis en planning rouge, car une extraction médicale est prévue et que je ne peux prendre de rendez-vous que par téléphone. Qu'elle a déjà fait remonter plusieurs fois ce dysfonctionnement et qu'elle n'a pas de solution à son niveau. Suite à ça, j'ai appelé, toujours sur mes heures de travail, le service des permis de visite, qui ne peut pas me proposer de solution, même pour les prochains week-ends, que je vais rester en planning rouge jusqu'à ce que le rendez-vous soit passé. 2 décembre, 15 décembre, 31 décembre, et que je dois prendre mes rendez-vous par téléphone. Sauf que j'ai eu beau appeler en continu dès la première heure, je n'ai pas pu avoir de rendez-vous. Parce que mon conjoint est gravement malade, je vais sans doute ne pas pouvoir le voir pendant des semaines. Il va être amené à être hospitalisé régulièrement. Ça sera comme ça à chaque fois ? Nous devions avoir un UVF avant le premier confinement qui a été annulé. Le suivant était prévu pour le vendredi 30 novembre à 10h. Il a été annulé. Vendredi 30, à 9h, quand j'étais en chemin. Ça va faire 10 mois que j'ai pas le droit de toucher mon conjoint. Aujourd'hui, au travers des plexiglas, nous avons du mal à nous voir et à nous entendre. Nous ne parlons presque plus, car il est difficile de faire une phrase et de communiquer en criant. Les parloirs étaient les moments ressourçants, où nous rechargions les batteries. Aujourd'hui, nous pleurons presque à chaque fois. Et là, sous prétexte d'un dispositif informatique bloquant, on m'empêche de le voir. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est dur. Comme jamais, ça n'a été aussi dur. Il y a des épreuves dans la vie et des moments de tristesse, mais on se sent vivant pour les affronter. Aujourd'hui, j'ai plus de vitalité. Quand j'ai l'impression qu'il ne nous reste rien, on nous arrache à nouveau quelque chose. J'ai rarement traversé des moments aussi durs. Ça fait des années que je tiens, qu'on a essayé de trouver un rythme malgré cette situation à la base compliquée. On me parle de système informatique, mais je ne suis pas en train de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Derrière, il y a des humains en souffrance. Quelle violence, quelle humiliation. C'est inadmissible qu'on ne m'en propose pas d'autre solution. Que, avec un peu de chance, vous aurez quelqu'un tôt au téléphone. Je me sens tellement impuissante. Toujours plus de murs parmi les murs. En vrai, c'est archi chaud. Je sais pas comment l'amour fait pour survivre encore dans cet enfer. Merci de prendre des nouvelles, ça fait plaisir. Même si elles sont souvent pas super positives.
Le parloir, un vrai moyen de pression, hein. Un vrai moyen de pression. C'est incroyable de voir des choses comme ça. Alors que, encore une fois, c'est un droit aux prisonniers. Et c'est pas la seule prison, hein, Nantes. Hein. Alors là, et là, c'est en plus avec une boîte privée, donc ça, ça aurait dû améliorer la chose pour que les familles, quand elles appellent, c'est quelqu'un décroche, ou pas comme à Fresnes, par exemple, où t'as beau appeler toute la journée, ou à Fleury, t'as beau appeler toute la journée, et c'est pareil, y a personne qui décroche, les bornes, elles fonctionnent plus, c'est des vraies galères. Hein. Pour prendre un rendez-vous, faut prévoir une journée entière, et encore, si t'as la chance d'obtenir ce rendez-vous dans cette journée, c'est quand même.
Ouais, moi, déjà, je voulais passer un gros big up aux copains et aux copines là de Casmurail, enfin, pour le relayer tout ça, pour le travail là-bas. Et je voulais dire que moi, j'avais l'impression qu'il y avait deux trucs un peu dans cette lettre. Il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que en fait, c'est de plus en plus galère là pour les proches d'avoir des parloirs. Que le parloir, c'est un moment un peu de respiration à la fois pour les proches et pour la personne qui est enfermée, quoi. Et que du coup les enlever, c'est un truc, c'est pas anodin, quoi. C'est un vrai truc violent pour les uns et pour les autres, et que ça rajoute encore de la tension pour les prochains parloirs qu'il y aura, quoi. Parce que ça veut dire que t'as plus qu'une demi-heure, une heure, quelques heures avec la personne, quoi, et que t'as de moins en moins de temps, et que du coup faut absolument en profiter, faut absolument faire genre t'es joyeux, joyeuse, etc. Enfin, que ça implique toute cette pression là psychologique qui est hyper vénère, sachant que pour les proches, avant t'es déjà, tu passes du temps dans la prison avant de réussir à arriver dans le box, quoi, que après tu passes du temps une fois que ton proche il est parti, donc que t'as bien le temps de manger ton seum, ta tristesse, tout ça, tout seul ou toute seule dans ton box, quoi, et que du coup c'est déjà un truc voilà qui est hyper vénère.
Ouais, et puis enfin un des trucs qui est dit là, et dont en fait on parlait déjà au printemps, les proches, il y avait des proches qui avaient fait une tribune qu'on avait relayé, il parlait déjà de ça, et en fait c'était au printemps, et là on est à l'hiver, et en fait ça n'a pas changé pour certaines personnes. C'est que pour en fait plein de prisonniers et de prisonnières, en fait c'est le seul contact physique avec quelqu'un d'autre qu'un surveillant, ou bon éventuellement des co-détenus, mais globalement c'est le seul contact physique auquel tu as droit. Donc c'est des gens, en fait t'as plus le droit au contact physique, et en fait c'est pas en fait c'est vraiment vraiment une torture, enfin c'est vraiment quelque chose qui te construit qui nous constitue en tant qu'humain, quoi. Et en fait te retirer le droit au contact physique, c'est vraiment un truc de ouf. Et là en fait ça, ils sont jamais partis, ces plexiglas, on en parle, en fait voilà, ils sont jamais partis des prisons, ça continue d'être puni si tu te touches au parloir, ou tu peux te voir suspendu ton parloir, voilà, jusqu'à maintenant depuis mars, voilà.
Je voulais parler des plexiglas parce que dans certaines tôles, je pense qu'en vrai, c'est ces plexiglas, ils ont été livrés par la même entreprise et la même société qui doit livrer dans toute la France. Et donc, dans certaines tôles, je ne dirai pas laquelle pour ne pas donner l'information aux surveillants, mais franchement, les gars, félicitations. Alors, je vous explique. Vous prenez les deux extrémités, des deux côtés, entre le, comment dire, en tant que prisonnier et en tant que visiteur. Et en fait, si vous êtes malin et si vous êtes minutieux de vos mains, vous pouvez la retirer, cette plexiglas. Donc en CD, c'est plus facile parce qu'il y a moins de surveillance qu'en maison d'arrêt. Mais en tout cas, il y a des prisonniers et des familles qui arrivent à retirer ce plexiglas.
Ouais, parce que pouvoir, le plexi, en fait, c'était censé être une sanction, le parloir en hygiophone, quoi. Et que maintenant, c'est généralisé à tout le monde sous prétexte de crise sanitaire. Mais ouais. Que par contre, ils ont mis des mois à distribuer des masques à l'intérieur, que des fois, il a fallu les condamner en tribunal, mais même mais qu'ils continuent à faire appel, qu'ils ont mis volontairement des gens en danger pendant très longtemps. Mais par contre, ton lien avec ton proche, ça, c'est pas possible, quoi.
C'est ça.
Et donc, en fait, c'est déjà là, maintenant, le fait de devoir se battre pour obtenir un parloir avec un plexi, c'est se battre pour obtenir un parloir disciplinaire, quasiment, quoi. Et en fait, c'est déjà un truc, un renversement, et c'est ce qu'on disait, c'est un droit carrément qui a été perdu, c'est que maintenant, pour n'importe quel prétexte, ils vont pouvoir remettre des plexiglas à tout le monde et faire galérer tout le monde, quoi. Et donc, c'est un peu c'est exactement ce qui est raconté. Quand il y a le plexi, en fait, c'est hyper compliqué de s'entendre, c'est hyper compliqué, de voir un peu comment va l'autre. Déjà que maintenant, c'est masqué, ça veut dire qu'aussi, y a beaucoup moins de soutien qui peut être transmis de part et d'autre, quoi. Et du coup, ça, c'était déjà un truc de ouf. Et l'autre truc de ouf qui est raconté dans ce témoignage, c'est en fait la question de la privatisation des accueils et de plus en plus de services dans l'administration pénitentiaire. En fait, c'est pas juste une question de genre, ça va pas être des matons au bout du téléphone. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'État qui a, au lieu de mettre... c'est-à-dire qu'il y aura plus de matons. Enfin, c'est soi-disant pour libérer des matons pour la prison, déjà. Donc, c'est pas forcément très positif. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, c'est aussi une manière de filer des thunes à des entreprises qui, pour rester concurrentielles, en fait, vont proposer les services les plus de merde, quoi.
Ils ont des sous, les prisons, alors, ça veut dire, pour payer les boîtes...
Bah ouais, mais parce qu'en fait, il y a une vraie volonté de l'État là depuis plusieurs années de genre donner de plus en plus de bif au secteur privé de la sécurité parce que c'est un marché et qu'en fait, il faut l'entretenir pour qu'il grandisse et qu'il devienne autonome. Et du coup, il y a un vrai truc là dans la gestion des prisons qui est pas genre spécialement français, mais qui est en tout cas là en train d'avancer dans les centres de rétention et dans les prisons, c'est de transférer l'accueil des familles, que ce soit par téléphone ou en physique, à des entreprises privées. Et du coup, ça veut dire qu'encore plus que d'habitude, tu tombes que sur des gens qui sont incompétents pour tout, quoi. Et c'est même pas incompétent parce que c'est très bien ce qu'ils disent, quoi. C'est pas une question humaine ou quoi, on en a rien à foutre, c'est juste qu'ils n'ont de compétences sur rien, quoi. Genre, enfin, du coup, ils ne servent à rien, ils sont payés pour rien, et c'est des thunes qui va juste pour que les gens galèrent, en fait, encore plus, quoi. Et qu'il n'y ait plus aucune responsabilité nulle part, en fait. Tu parles à des gens, ils sont responsables de rien nulle part, quoi. La prison délègue au sous-traitant, le sous-traitant le renvoie à la prison, et puis en fait, toi, tu peux rien faire entre les deux, quoi. Et donc, en fait, c'est, enfin, voilà, c'est juste une manière encore plus de faire tourner en rond les familles et les proches, et en plus de filer des thunes à des entreprises privées, soi-disant pour une meilleure efficacité, ce qui est quand même un truc de ouf. Et voilà, et du coup, ça donne beaucoup en fait un peu comment ça peut se passer dans les prisons, quoi. Enfin, et on va peut-être en revenir si y a le copain qui a le temps d'appeler, parce qu'au CRA de Marseille, c'est un des centres de rétention qui a été choisi comme lieu d'expérimentation pour. Justement la gestion de l'accueil par une société privée qui est honnête, donc qui fait aussi beaucoup de sous-traitance dans le nettoyage, y compris dans les centres de rétention et tout, et qui du coup maintenant, après toute une séance de formation par les keufs de la PAF qui sont les matons du CRA, deviennent les gestionnaires de l'accueil famille, quoi. Et donc en fait c'est voilà, et c'est pareil, c'est soi-disant pour qu'il y ait plus de keufs dispo dans le CRA, donc plus de répression à l'intérieur, mais c'est aussi une manière de mettre encore plus des barrières aux familles, de tomber encore plus sur de l'arbitraire dans les ordres, et de tomber sur des gens qui en ont, enfin voilà, qui sont encore plus qui sont, enfin je sais même pas comment qualifier le truc, quoi. Enfin, c'est encore plus sous-traité, encore plus précarisé, donc qui vont encore en plus appliquer les ordres connement et de manière agressive ou violente, parce qu'ils en ont rien à foutre. En fait, c'est des sous-traitants qui peuvent être déplacés de site, quoi. Je sais même pas comment dire.
Non, puis des fois dans des prisons, il y a des blocages. Ça veut dire que quand ces jours-là, c'est des fois quand t'appelles pour un parloir, on va te dire maintenant, madame, il y a blocage, vous pouvez pas venir. Enfin, quand ils veulent vous prévenir, mais là ils pourront plus prévenir en vrai. C'est-à-dire qu'ils iront au parloir, et en parlant de blocage, on va parler de Liancourt.
Qu'ici, on sait faire des transitions.
On est bon, hein.
J'ai envie de vous casser votre transition.
Et
vite fait, juste vite
il
fait
est
quand même.
Relou.
Non, mais juste pour donner beaucoup de force quand même aux proches et aux familles.
C'est
rappeler
vrai.
Que c'est des femmes de prisonniers, que c'est des mamans, que c'est des sœurs. Et que du coup, elle galère. Un parloir d'une demi-heure, c'est une journée pour aller prendre les transports, galérer dans des salles d'attente, etc. Supporter des humiliations, des provocations, des regards de travers, qu'elles sont criminalisées comme les hommes qu'elles vont voir. Et du coup, le témoignage, les deux témoignages, ils étaient quand même vachement de valeur pour rappeler ça, quoi. Donc, beaucoup de force à elles.
Et comme il m'a coupé ma transition et que j'étais très fière de celle-ci, on va mettre un petit peu de musique pour la peine. Tu es puni.
Hey. Drop the hook M3. Hey. All I speak is facts in my song that you be. I just got a call from my dog, he coming home. He coming home. I just dropped some fondo on his books and on the phone. Be accurate. You don't wanna go to war. I was raised with some savages, smoking on this cannabis. Bitch, we gotta handle this. I let you cross me once, you cross me twice. That's on my ass, little bitch. I'm dumb, I ain't your average bitch. I'm hot now, dreaded up just like a rock star. Do my titty only 5'5". I'm hot now, dreaded up just like a rock star. Do my titty only 5'5". Everything I do be to perfection. Smoking, rolling weed before my session. Pussy better not come up in my section. Watching like it's a profession. He could get it, she could get it, just put your request in. Bitch, I'm about my money, nothing less than. You can ask my mama or my sister about my back end. Forever with bees and pick me up when I be slacking. I just got the pencil, got the writing, got the rapping. My brother put that pack up in my hand, I got the trapping. I don't really fuck with you niggas, y'all be acting. Ain't around fuck boys, then that's what you attracting. If it ain't about that bag, then ain't no contacting. Coming home. Coming home. I just dropped some fondo on his books and on the phone. Fuck 12, free my nigga right or wrong. Bitch, cause all I speak is facts.
facts in every song. All I speak is facts that should be accurate. You don't wanna go to war, I was raised up with some savages. Smoking on this cannabis, bitch, we gotta handle this. I let you cross me once, you cross me twice. That's on my ass, little bitch, I'm dumb, I ain't your average bitch. I'm hot now, dreaded up just like a rock star.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire et pour vous abonner, c'est au 1 rue, au journal, au 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 ou au
07 52 40 22 48. Je répète vite fait, 07 52 40 22 48. Très temps que tu la prennes, hein, juste pour dire, tu vois, mais pour la rentrée, tranquille.
Je ne comprends pas de quoi tu parles.
Et le journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières. On vient de s'écouter, alors excusez mon accent, Run From Run, JTM3, et c'était le titre Hop Watching, et une meuf qu'on voit du gras pour reprendre transition.
Pour reprendre la transition sur Liancourt. Alors Liancourt, on va relater les faits de cette tôle extraordinaire, j'ai envie de dire, dans la connerie bien évidemment. Alors, une surveillante se serait fait agresser à son domicile. Qu'on s'entende bien, si je m'égare, dites-le-moi. Son domicile, c'est pas la prison.
C'est chez elle. Hein.
C'est chez elle, d'accord. Donc, suite à cette violente agression, comme elle est décrite sur tous les réseaux sociaux où les surveillants sont en masse actuellement... ce serait un prisonnier qu'aurait commandité ce lynchage. Le souci, c'est que aucune preuve n'est avancée dans leur dire, que aucun prisonnier n'a été accusé ou ciblé, et que si demain je me fais agresser, sachez que ce sera un surveillant qui est venu me taper chez moi. Bah. Voilà. Je tenais à le dire. Suite à ça, faut savoir que c'est une surveillante qui n'est pas du tout effectivement appréciée des prisonniers pour son comportement intolérable envers eux, comme un surplus de mauvaise humeur, allons-nous dire. Sur les prisonniers, par exemple, elle était très désagréable, elle peut être très... comment dire ? Voilà, elle n'est pas aimée des prisonniers. Voilà, c'est pas la plus, voilà, ça, ouais. C'est quelqu'un qui use énormément de son pouvoir et qui est souvent au service des cantines où il y a énormément de soucis à Liancourt, où beaucoup de plaintes ces derniers temps des prisonniers qui expliquaient que des cantines ont été déduites des pécules et qui n'ont pas été restituées, enfin qui n'ont pas été données entièrement. Donc c'est des plaintes constantes, il y en a qui les plus forts en gueule réussissent à obtenir leur bien, et d'autres se font voler par l'administration pénitentiaire.
Ce qui n'arrive pas que à Liancourt d'ailleurs.
Ce qui n'arrive pas malheureusement que à Liancourt. De ce fait, s'organise un grand blocage des surveillants devant cette tôle. Où il crie gaiement je sais plus comment elle s'appelle cette dame, hein. On s'en fout un peu.
Ouais, on s'en fout, mais c'est surtout en fait quand les matons ils bloquent, ça veut dire qu'en c'est fait il y a tout ce qui se passe à l'intérieur est bloqué, quoi. Et donc
principalement... c'est surtout que quand les familles, alors, comme ils ont bloqué par surprise, les familles sont arrivées, pour certains ont fait 800 km avec leur colis de Noël et sont restées sur le bas de la porte puisqu'ils n'ont pas pu rentrer et n'ont pas pu donner non plus le colis attendu depuis des semaines par leurs proches. Ce qui est immonde, effectivement, comme tu le disais Alex, tout est à l'arrêt. À l'intérieur, seules les promenades sont faites, où les gars, bien évidemment, se rebellent et refusent de remonter de promenade. Ce qui fait qu'ils prennent un gros risque à l'intérieur, parce qu'ils vont désigner forcément des meneurs et qui se verront subir un transfert disciplinaire qui sera loin de leurs proches et et certainement une autre peine de prison en plus sur celles qu'ils ont et sur celles qui purgent.
Et c'est souvent aussi l'occasion d'une intervention des Eris et donc en fait de violence de la part de matons cagoulés armés en mode anti-émeute. Et du coup, quand tu parles de risques, il y a les risques judiciaires, la répression administrative que peut mettre la tôle et la répression physique sur le coup, quoi.
C'est ça.
Que du coup, c'est des vraies décisions collectives et c'est des vrais moyens de lutte, enfin, c'est des vrais choix qui sont faits. C'est important de les relayer, de les soutenir, quoi, pour pas qu'on entende parler que des blocages des matons, qui eux, en fait, prennent pas tant de risques que ça, quoi.
Oh non, ils en prennent pas du tout, au contraire, hein. Ils sont des petits apéros. Apéro saucisse pinard et tout va bien hein, pour eux. Ils brûlent les panettes, ils brûlent des pneus, là ils foutent un grand bordel devant les tôles et ils en fument bien les prisonniers qui font des crises d'asthme, mais on s'en fout, c'est pas grave, ce n'est que des prisonniers paraît-il. Faut savoir qu'à l'intérieur quand on dit que tout mouvement est à l'arrêt, ça veut dire qu'ils se sont vus manger une boîte de thon par jour sans pain, sans distribution de pain, sans distribution de cantine, sans rien. Donc effectivement, ils bloquent parce qu'ils veulent faire valoir leurs droits. Et donc, gros soutien à eux, gros soutien aux proches qui n'ont pas accès à ces parloirs malheureusement. Et bien évidemment, aucun soutien pour ces surveillants qui bloquent une prison pour obtenir des armes. Voilà, parce qu'en vrai, c'est ce qu'ils veulent.
Ouais, parce qu'en fait, c'est des gens qui... C'est comme les keufs, hein, ils n'ont rien à foutre de leurs collègues. En vrai, ce qui les intéresse, c'est juste d'essayer de profiter de l'agression de quelqu'un à l'extérieur. Enfin, comme ils profitent à chaque fois qu'il se passe un truc à l'intérieur et qu'ils arrivent à énerver quelqu'un qui réagit, quoi. Ils essayent de revendiquer toujours plus d'armes, alors qu'en fait, on rappelle qu'il y a déjà pas mal d'armes hein, qui se baladent de leur côté en prison à l'occasion, quoi, pour les grader, pour ceci, pour cela. Et du coup... Enfin, en fait, c'est toujours les mêmes revendications. Maintenant, c'est le taser. On continuera à dire qu'il faut justement les désarmer, ces gens-là. Parce que ça, c'est déjà, sans armes, il y a suffisamment de gens qui meurent dans les prisons ou qui prennent de la pression physique assez vénère, quoi. Et voilà. On a fait vite parce qu'on a un copain en ligne.
C'est ça.
Et on voulait donner vite fait des nouvelles un peu de ce qui se passe à Marseille. Ça va ?
Ouais, ça va et toi ?
Yes. Du coup, tu nous appelles pour donner des nouvelles des Baumettes et particulièrement de la MAF.
Ouais. Disons, à la MAF, en gros, ça fait depuis début novembre qu'il y a des infos qui sortent à propos de fouilles à nu qui sont assez systématiques depuis au moins 2 mois. Enfin, depuis un mois et demi. C'était sous prétexte de lutte contre le terrorisme et tout ça, là, à l'état d'urgence et tout ça. Il y avait des fouilles sectorielles qui étaient menées. Mais en fait, ça continue, ça devient hyper systématique. Et là, en fait, les prisonnières, elles n'en peuvent plus. Et elles ont notamment appelé à faire cette nuit un maximum de bruit à minuit et à 6h du matin ce matin. Je sais pas si ça a eu lieu effectivement, mais il y a eu un appel collectif qui a tourné. Et il y avait également un appel à boucher les oeilletons à 7h du matin pour dénoncer ça, dénoncer les violences des matons, mais aussi les pressions qu'ils mettent parce que il y en a certaines qui essayent de dénoncer ça, il y en a certaines qui en sont envoyées au QI, qui sont au QI depuis plusieurs semaines. À cause de toutes ces histoires, quoi. Voilà.
Ouais. On rappelle qu'aussi, en fait, on en parlait déjà dans le dernier numéro. C'est qu'à la MAF des Baumettes, ils ont déjà mis des espèces de surprotection sur les... Enfin, là où il y a l'emplacement pour les fenêtres, pour éviter qu'il y ait...
C'est la maison d'arrêt des femmes.
Ouais, à la maison d'arrêt des femmes. Pour éviter qu'il y ait du bruit qui sorte suite à des plaintes de riverains, là, et des pétitions. Et que, du coup, il n'y a déjà pas beaucoup d'air qui circule, que les conditions, elles sont particulièrement vénères, en fait, dans cette maison d'arrêt pour femmes. Mm-hmm. Et que du coup là en fait l'État, enfin l'administration pénitentiaire locale, elle en profite pour encore plus leur mettre la misère à un moment où c'est le confinement, c'est le couvre-feu. En fait, c'est de plus en plus compliqué pour les proches d'être là pour soutenir. Qu'il y a quand même moins de proches en fait souvent qui viennent en MAF qu'en maison d'arrêt pour hommes.
Enfin, voilà. Surtout qu'il y a moins de prisons pour femmes, donc elles sont souvent très éloignées de chez elles aussi. Effectivement.
Ouais, c'est ça.
Effectivement, c'est il y a très peu de parloirs en vrai. Tu vas à la Fleury-Mérogis.
Le truc classique, c'est par exemple les prisonnières corses, elles sont à la MAF des Baumettes.
Ouais, donc tu vois.
Ouais, donc c'est la galère quoi. Et pareil d'ailleurs là-dessus, il y a quand même souvent des revendications qui ressortent hein, pour que les prisonnières et prisonniers corses, les prisonnières et prisonniers basques, puissent retourner le plus proche possible de leur famille, parce qu'en fait c'est c'est des galères de vie qui sont hyper intenses, en fait. C'est ce que tu racontais avec les déplacements de 800 km. Mais en fait, ça veut dire que les gens, ils sont obligés de s'organiser des jours et des jours pour un parloir, que de plus en plus, ils peuvent se retrouver bloqués, avoir la peur de l'amende, de machin. De,
puis c'est un coût, hein, c'est un coût, le trajet, les péages, la nuit d'hôtel, la perte de la journée de travail, c'est un coût tout ça. Le colis de Noël qui vont devoir, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, ouais, effectivement, je confirme ce que tu dis à la MAF des Baumettes, c'est un réel problème. On parle beaucoup de lynchage aussi dans cette prison. Donc, force à elle, bien évidemment, on les soutient un maximum. Et avant de passer au coucou tout à l'heure, je fais quand même un grand coucou à ma pote qui est là-bas et voilà.
Ouais, et pour dire aussi, il y a une émission de radio là-bas pour passer des dédicaces, du soutien, qui s'appelle Parloir Libre, si je dis pas de bêtises. On peut retrouver les coordonnées sur Internet. Faut pas hésiter à s'en saisir aussi pour apporter du soutien aux prisonnières qui sont là-bas, pour écouter quand il y a des proches qui appellent, pour voir un peu comment ça se passe.
Et surtout si vous avez un proche incarcéré au Baumettes, que ce soit à la tôle ou dans les CRA là-bas, si vous avez des histoires poignantes et sur lesquelles vous êtes coincé et vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les appeler pour pouvoir justement... Et d'ailleurs, pas qu'au Baumettes, hein, y a Louis, y a d'autres tôles, il me semble bien, mais j'ai plus le...
Yes.
J'ai plus en mémoire.
Il y a Salon de Provence, merci. Arles, dans le coin, il y a quoi? Il y a Tarascon, Farlède à Toulon, et il y a le CRA de Marseille, la Valentine aussi, l'EPM,
voilà.
Pour les mineurs.
Ah ouais, important aussi.
Et du coup, c'est important d'écouter ce genre d'émission, de relayer ce qu'il y a. Enfin, quand vous avez un proche là-bas, d'appeler pour... Enfin, voilà, ça vaut le coup, en tout cas, c'est écouter. De la même manière que Casmura, il y a un dont on parlait plus tôt à Nantes, qui permet aussi de passer des dédicaces, à la fois musicales et des dédicaces orales, quoi, assez proches. Et voilà, bah, beaucoup de force à celles et ceux qui permettent ça, quoi. On voulait revenir vite fait avec toi, parce que pour donner un tout petit peu de nouvelles du CRA du Canet, qui est un...
Ouais.
Ouais, qui est un CRA un peu particulier parce que ça, enfin, historiquement, c'est là où il y a la première prison pour sans-papiers, c'est à Marseille. Là, il est un peu en centre-ville, si je dis pas de conneries. Enfin, pas dans le centre-ville de Marseille, mais en tout cas, il est vraiment dans la ville. Quoi.
Il est en plein dans la ville. Ouais. Ouais. Bah, ouais. En fait, il est même pas loin des lieux de rafle. C'est ça qui est assez hardcore. En fait, il est situé pas très très loin des quartiers nord. Ils ont même déplacé la PADA, donc la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, qui est gérée par la même association que l'association qui est dans le CRA. Ils ont déplacé la PADA récemment tout près du CRA. À certains qui voient pas un hasard, mais enfin bon. Il y a des rafles aussi ciblées au niveau des puces des quartiers nord, et c'est pas loin du CRA non plus. Du coup, ce qui a un peu de particulier avec ce CRA aussi, c'est qu'il est, ouais, il est complètement intégré à la dynamique de la ville, parce que aussi il y a beaucoup de pauvres et sans papiers qui sont pas loin, en fait, à attraper, quoi.
Et du coup, tu sais un peu comment ça
de chasse, quoi.
Parce que la dernière fois qu'on a parlé du CRA de Marseille, juste j'en profite, je fais une toute petite parenthèse pour dire que cette semaine, il y a eu deux rassemblements devant des prisons pour sans-papiers en solidarité avec les luttes. Et les gens qui se battent à l'intérieur, c'était à Lyon mercredi dernier, et c'est demain ou aujourd'hui à Toulouse. Et du coup, c'était juste pour te demander si toi, tu avais un tout petit peu des nouvelles de comment ça se passait dans le CRA, parce qu'on sait que l'hiver, c'est encore plus... Là, que c'est encore plus ghetto, les conditions, et que c'est encore plus compliqué.
Dans le CRA, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans les autres CRA en France, parce qu'il y a un peu le truc central que les prisonniers disent, c'est la criminalisation liée au refus de test Covid. Donc en gros, au bout de 3 refus de test, il y a un gros risque de prendre 3 à 6 mois de prison ferme. À Nîmes, c'est pareil, au CRA de Nîmes, c'est pareil, la jurisprudence, c'est 5 mois, et donc en fait, les gens, ils font des allers-retours entre CRA, prison, CRA, enfin, c'est un truc qui existait déjà, mais qui existe de plus en plus, parce que par exemple, avant, les vols, c'était moins fréquent de les refuser que refuser un test. Un test, en fait, ça se passe dans le CRA, et du coup, en fait, les keufs, ils disent juste, tu fais le test, en disant, t'auras un vol demain, et du coup, les gens, ils refusent le test, et en fait, il n'y avait pas de vol. Parfois, ils inventent totalement les vols. Et du coup, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui refusent le test qu'avant de gens qui refusaient les vols. Ouais. Et donc, il y a beaucoup plus de gens qui se retrouvent en prison à cause de ça.
En tout cas, c'est un nouvel outil que les préfectures ont décidé de mettre en place, quoi, toujours en servant du même délit fourre-tout, qui est le refus de se soumettre à une mesure d'éloignement, quoi, où les gens risquent jusqu'à 3 ans de prison. Généralement, ce que tu dis, ils prennent 3 mois, 6 mois, des interdictions de territoire qui vont permettre de les recriminaliser après, etc. Et voilà, quoi.
Ouais, un autre truc d'information récente sur le CRA, donc il y a eu un incendie début novembre et donc le bâtiment dans le bâtiment 1D et le bâtiment 1D est toujours inutilisé, mais ça les empêche pas en fait de pas du tout respecter les gestes barrières et tout ça dans le CRA et donc de le remplir de plus en plus. Il y a de plus en plus d'arrestations et donc dans les autres bâtiments c'est pas du tout, enfin il y a pas du tout de cellules individuelles ou je sais pas quoi par exemple.
Ouais, et il y a la presse qui s'est fait l'écho pas mal ces derniers jours du fait qu'il y a de plus en plus de cas de personnes atteintes de coronavirus dans les CRA, parce qu'en fait, on tasse des gens, qu'on fait pas du tout attention à est-ce qu'ils ont le coronavirus ou pas, que les keufs font n'importe quoi, ne portent pas bien le masque, se baladent, n'arrêtent pas de faire des allers-retours, parce que comme en prison, en vrai, ceux qui bougent le plus, c'est quand même les matons, quoi, et les matones. Et du coup, c'est souvent eux qui amènent les maladies, quoi, à l'intérieur.
Ouais. Et bah, désolé, parce que... juste un des seuls trucs en fait qu'ils font à propos du coronavirus, c'est d'interdire de visite les gens qui viennent d'arriver. En tout cas, ils font ça à Marseille. Je sais pas s'ils font ça dans les autres CRA. C'est l'excuse officielle, mais en fait, c'est la seule mesure qu'ils font pour lutter contre le Covid, soi-disant.
Ouais, comme quand quelqu'un est malade, en fait, le coronavirus, mais c'est ce que t'expliquais avec le refus de test. En fait, tout est prétexte pour eux, de toute façon, à emmerder les gens et à essayer de les briser, quoi. Et du coup, s'ils peuvent se permettre d'empêcher les gens de voir leurs proches pendant 15 jours, ils vont pas se faire chier, quoi. Juste, nous, on va devoir te laisser, parce que ça va être la fin de l'émission. Si tu veux passer une dédicace à quelqu'un...
C'est maintenant.
Vincent au Beaumet, en ce moment,
ouais. Yes, beaucoup de force... attends, juste avant de passer aux dédicaces pour nous, par contre, on avait un tout petit message à passer pour... désolé, j'étais présent dans ton élan. Pour Fréquence Paris Pluriel. Ouais. Du coup, il y a besoin un peu d'argent là, pour soutenir la radio. En ce moment, il y a une collecte qui a été mise en place en ligne pour essayer d'améliorer le matériel pour que les émissions elles puissent mieux tourner, etc., qu'elles soient plus de qualité, tout ça. Ça permettrait d'acheter une nouvelle console. Et du coup, il y a ce qu'on appelle une cagnotte en ligne qui est mise en place. Vous pouvez retrouver le lien sur rfpp.net, je crois, ou sur Hello Asso en tapant sûrement rfpp. Et sinon, dans le fil de l'émission sur Internet, pour celles et ceux qui ont accès, il ne faut pas hésiter à soutenir, même si c'est un peu... on continuera à la rentrée, si la cagnotte est toujours en ligne, de faire tourner. On le met dans le fil de l'émission. Mm-hmm. Et c'est ce qui permet de tenir la radio aussi un peu à flot en rachetant du matos. Donc, faut pas hésiter, ça permet de faire les émissions. On va passer aux dédicaces. On commence peut-être par les dédicaces des copains.
Ouais. Donc, il y a un gros salut... Un gros salut à Fifi, à Monique et à Marion. Trop belle l'histoire. Et Khaled, bientôt la fin. Champagne, grand.
Grave.
Ouais. Moi, je voudrais aussi faire une grosse dédicace, parce qu'on a eu une semaine un peu pourrie quand même, à C4, là, qui vient de tomber. Donc là, c'est en Guadeloupe, dans les colonies françaises. Donc là, il est incarcéré à la prison de Bemao. On espère qu'il va pas prendre le tarif. Beaucoup de force à lui. Et puis, grosse dédicace aussi à Chelhi, à Fren. Et puis aux frères là, qui se reconnaîtront, qui viennent de tomber, les trois là, beaucoup de force à vous, parce que ça risque d'être compliqué cette affaire. Ouais.
Alors moi, je voudrais bien évidemment Ouria, Martial, et puis mon pote Stéphane, et puis une petite dédicace aussi à un syndicat, celui de syndicat des détenus de France, très actif actuellement sur Twitter. Je voulais vraiment vraiment les féliciter pour leur taf, parce que c'est vraiment c'est vraiment de l'actu en direct. Mmh. Et puis voilà, c'était cool et puis ils ont une histoire et c'est pas à moi de la raconter. On espère vraiment qu'on pourra les entendre à l'antenne et qu'ils pourront la raconter, cette histoire là donc voilà, si vous nous entendez, gros soutien à vous de la part de l'envoyé.
Lâchez rien.
Ouais, moi je voulais passer un gros coucou à Mehdi, à notre poteau. Vas-y, on pense vraiment fort à toi. Lâche rien. On a grosse pensée à toi et beaucoup de soutien. On t'oublie pas, poteau.
Ouais, une pensée de K au Grizzly, à Camille, aux deux autres crapules, aux familles qui se tapent. Moi je voulais juste rajouter de la force à l'infâme. Ouais. Voilà, on pense à Watt, on va continuer de se donner des nouvelles, et beaucoup de force à Fabrice aussi, On s'est loupé les dernières fois, mais vas-y, on continue de se tenir au courant aussi. Beaucoup de force à tous les proches, à toutes les personnes qui sont enfermées. La rediffusion, c'est
mercredi matin, 8h30. Force, courage et détermination. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement. Salut à tous et à toutes.
J'ai presque plus de larmes, plus de gestes gentils, ne serait-ce qu'un peu d'âme. Escrocs et mesquins, comme tous les bandits, cette vie n'a plus de charme. J'ai jadis grandi avec l'image d'un repenti. Peace, aujourd'hui est-ce trop demandé?
Avec ma mère, ça a toujours été froid. Alors avec les meufs, quand j'ai pas toujours été droit. C'était soit belle et tais-toi, je l'ai fait sucer, je l'ai tais-toi. Puis j'ai compris que le problème avec la pute c'était moi. Hein, je suis qu'un petit jeune de banlieue, on s'excusera devant Dieu. Mange pas de glace.